plein phare.
Les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, de 11h à midi, en direct sur FPP.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'émission Plein Phare, bienvenue aux auditeurs d'FPP. On se retrouve pour notre deuxième trimestre sur notre radio qu'on aime tant et qu'on soutient toujours. Plein Phare, c'est une émission consacrée à l'actualité du spectacle vivant, de la musique, de la littérature ainsi que des découvertes atypiques. Je vous représente Inès qui aujourd'hui est venue avec trois invités, Erika, Polo et Letty.
Bonjour.
Bonjour, du collectif Baram Art, et elles vont nous parler d'un festival qui aura lieu en mars. Capucine, pour toi, pour ta part, tu es allée à Bobigny voir Family Flows. Salut.
Je suis allée à Bobino, ma Camille, mais je suis effectivement allée voir la Family Flows.
Très bien. Pour ma part, je vous présenterai le merveilleux spectacle Jeune Public. Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie. Notre invité va arriver en fusée en fin d'émission. Mais tout de suite, nous commençons avec Zoé, puis Nick qui parlera du même sujet de façon musicale. Zoé, tu voulais revenir sur la polémique qu'il y a actuellement sur la réédition des pamphlets de Céline.
Oui, effectivement. Bonjour à tous déjà.
Salut Zoé.
Oui, effectivement. Au mois de décembre, on a appris que Gallimard souhaitait rééditer les pamphlets antisémites de Céline. Et là, tout de suite, il y a eu une grosse réaction. Par rapport, voilà, et dans le monde littéraire et dans le monde politique, enfin, voilà, ça a été une réaction unanime. Est-ce qu'il faut, oui ou non, publier ces pamphlets ? Sachant que voilà, ce sont des pamphlets qui ont été écrits en 1937 pour Bagatelle pour un massacre, en 1938 pour l'école des cadavres et en 1941 dans Les Beaudrats. Qu'est-ce que nous explique Céline dans ses ouvrages ? C'est la haine des Juifs, et pas que des Juifs, des Noirs, de tous ceux qui ne sont pas blanc comme Céline. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est important de montrer ces textes au public, ou est-ce qu'il faudrait voilà continuer à ce qu'ils soient dans voilà un peu cette sphère un peu voilà de est-ce que on doit les lire, est-ce qu'on doit pas les lire, est-ce que on doit y donner accès ou pas. Et moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et j'aimerais commencer déjà par notre Premier ministre, Édouard Philippe, qui, dans le journal du dimanche du 7 janvier dernier, donc il n'y a vraiment pas longtemps, déclarait, je cite, « Il y a d'excellentes raisons de détester l'homme, mais vous ne pouvez pas ignorer l'écrivain ni sa place centrale dans la littérature française. » Voilà, lui, ce qu'il dit pour justifier l'édition de ses pamphlets antisémites. Alors, moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec lui. On ne peut pas nier le fait que Céline ait été un grand écrivain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de publier des textes de haine raciale, surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui ? C'est difficile, c'est compliqué. Et pour moi, j'ai envie de dire que non, on ne publie pas ce genre de choses. Déjà, soyons honnêtes, on les trouve facilement sur Internet.
Si on veut les lire, on les trouve facilement sur Internet.
Et je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt de payer pour avoir ce genre de texte.
J'ai une question, il s'agit de réédition, donc c'est des textes qui ont déjà été publiés.
Alors, ils avaient été publiés aux éditions de Noël à l'époque, d'accord, du coup vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et très vite, ça a été retiré du marché, et Céline et sa femme ont toujours refusé de rééditer ces textes. C'est seulement, là, il y a quelques mois, sa femme, qui a maintenant 105 ans, je crois, a dit oui, ok, on les republie. Et du coup, c'est pour ça que c'est reparti. D'accord. Ouais.
Moi, j'ai une question, Zoé. Indépendamment du contenu, un grand auteur peut très bien avoir écrit de très mauvais textes par ailleurs, puisque là, dans la citation que tu nous lis du Premier ministre, il est question de l'artiste. Mmh. Mais un artiste n'a pas forcément écrit que des très belles choses par ailleurs. Si jamais il s'agissait simplement d'un mauvais texte, on ne se bataillerait absolument pas pour l'éditer. Est-ce qu'il n'y a pas un côté quand même un peu voyeuriste aussi dans ce débat ?
Ben, là, effectivement, complètement. Alors, il parle d'une édition qui serait revue, enfin, qui serait annotée, qui serait étudiée par des spécialistes, et des spécialistes de Céline, et des spécialistes de la Shoah, etc. Mais ça reste quand même, dans le texte brut, un texte de haine. Et moi, je trouve ça vraiment scandaleux de pouvoir mettre dans les mains de n'importe qui ce genre de texte. Les intéressés ils peuvent le trouver de toute façon. Donc, je ne vois pas l'intérêt de mettre de l'argent là-dedans et de pas mettre en avant d'autres auteurs qui ont d'autres choses à dire beaucoup plus intéressantes.
Oui, tout à fait, parce que y a ce que tu viens de dire à l'instant. Il y a le fait que, par exemple, les éditions de livres scolaires ne sont toujours pas réactualisées pour des raisons économiques, alors que les pages historiques sont absolument scandaleuses. Oui. On a encore Napoléon comme héros, ou avec un gommage du personnage. L'histoire du colonialisme, de l'esclavage et du génocide des Roms est niée. Et puis, ça va avec, par exemple, la réédition de la BD Bamboula,
oui.
Comme si c'était vraiment le truc historique nécessaire, comme par hasard l'année. Où
Et ce que disait Capucine est intéressant, c'est vrai que le texte Voyage au bout de la nuit, c'est le roman préféré de beaucoup de lecteurs.
Oui.
Est-ce qu'il y a un intérêt littéraire à ces pamphlets, selon toi?
Alors, selon moi, je peux pas dire que je les ai tous lus en entier, mais j'en ai lu pas mal d'extraits, du coup, pour me préparer. Mmh. Et j'aimerais déjà que Capucine puisse nous lire un extrait pour mettre vraiment
dans le vif du sujet.
Voilà, parce qu'il y a Céline... que moi, personnellement, voilà, j'ai découvert Céline avec Le Voyage. Et enfin, oui, ça a été une révolution littéraire. Mmh. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avant Céline, il n'y avait pas grand monde qui faisait du Céline, quoi. Mmh. Et voilà, dans ce genre de texte, donc là, j'ai un extrait de L'École des cadavres, donc de 1938. On peut pas dire que c'est de la grande littérature.
D'accord, c'est pas le pire. Capucine lui prête sa voix.
Merci beaucoup Zoé de m'avoir confié cette tâche. Alors, extrait de Céline, L'École des cadavres. Je me sens très amie d'Hitler, très amie de tous les Allemands. Je trouve que ce sont des frères, qu'ils ont bien raison d'être racistes. Ça me ferait énormément de peine si jamais ils étaient battus. Je trouve que nos vrais ennemis, c'est les Juifs et les francs-maçons. Que la guerre, c'est la guerre des Juifs et des francs-maçons. Que c'est pas du tout la nôtre. Que c'est un crime qu'on nous oblige à porter des armes contre des personnes de notre race, qui ne nous demandent rien. Que c'est juste pour faire plaisir aux détrousseurs du ghetto. Que c'est la dégringolade au dernier cran de la dégueulasserie.
Waouh, on a tous les nerfs à bloc là dans le studio autour de...
Voilà, j'aimerais qu'on m'explique pour ceux dont les arguments sont... c'est un grand auteur, c'est magnifique. Qu'est-ce qui est beau là-dedans? À part, antiser la haine, il n'y a rien d'intéressant.
Il n'y a pas d'effet de style, c'est même pas écrit en vers. Enfin, voilà, effectivement, littéraire.
C'est ça. Et y a une autre question, selon moi, qui se pose, c'est que si on autorise la publication de ces pamphlets, mais du coup, on autorise beaucoup de choses. La première question qui m'est venue à l'esprit, c'est oui, donc si on autorise la publication de ces textes, si quelqu'un veut le porter au théâtre, on acceptera une représentation de ce genre de texte, de ce genre d'idée au théâtre?
Oui, c'est sûr que c'est un débat intéressant, mais après, on peut aussi justement se servir d'une matière pour la détourner au théâtre.
Oui, oui aussi, bien sûr, oui.
Ça pose évidemment une question de fond, qui est celle de la liberté d'expression. Moi, je me souviens que Chomsky, il y a quelques années, avait été taxé d'antisémitisme parce qu'il avait défendu un négationniste, non pas parce qu'il était d'accord avec lui. Et il le disait très justement, quand on est pour la liberté d'expression, c'est pas pour défendre son copain avec lequel on est déjà d'accord. On défend la liberté d'expression quand on défend le droit à la personne avec laquelle justement on n'est absolument pas d'accord à s'exprimer. Je me fais délibérément l'avocat du diable parce que je pense que c'est un argument qu'on ne peut pas contourner autour de ce débat.
Oui. On ne peut pas le contourner en dehors que la liberté d'expression de qui ? C'est-à-dire que quand il y a les textes pareils, on voit bien que la liberté de vivre même et d'expression de beaucoup est mise à mal et en danger. Donc liberté, oui, mais vraiment pour tout le monde.
Ben, en tout cas, c'est un débat qui mérite... Alors notre invitée Erika veut poser une question.
En fait, il y a deux poids, deux mesures. Nyan Sapo a été interdit, a voulu être interdit par la maire de Paris parce que c'était des femmes noires qui voulaient se réunir, pas forcément en non-mixité, mais à des temps de non-mixité pour parler. Du coup, il y a deux poids, deux mesures. En fait, je ne pense pas qu'il y ait besoin qu'une personne se fasse violer devant nous pour qu'on sache que le viol, ce n'est pas bien, que c'est grave. Et pareil pour cet extrait, du coup, moi, ça m'a choqué de l'entendre, je vous le dis franchement. Et c'est... Il est négrophobe, il est antisémite. Du coup, pour moi, le débat, ce n'est même pas vraiment un débat. Donc, on devrait juste arrêter de reproduire à chaque fois les mêmes choses. Aux États-Unis, des personnes se battent pour qu'on enlève les statues d'anciens esclavagistes. Ici en France, il faudrait qu'on fasse un devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire n'est pas fait. C'est toujours les mêmes qui sont représentés et c'est toujours la même chose. Et ça, c'est aberrant parce que la France n'est pas juste blanche.
Non mais effectivement, là, il y a un vrai problème de fond qui se pose en dehors de ce sujet de Céline. C'est vraiment dans quelle France on vit aujourd'hui. Voilà.
Évidemment, le sujet est on pourrait faire l'émission sur ce sujet. Nick, toi, tu as choisi de poursuivre ce débat, si je puis dire, de façon musicale.
Oui, absolument. Bonjour à tout le monde. Je pense que, en effet, une des questions de fond, c'est la question de la liberté d'expression qu'on vient d'évoquer. Et aussi, est-ce qu'on peut séparer l'art de l'artiste? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on doit? Et donc, la question se pose encore plus précisément dans la musique. Parce que dans la musique que je vais vous passer, il n'y a principalement pas de texte. Lorsqu'on a des écrits, on peut statuer si c'est antisémite, ça ne l'est pas. Mais la musique pure, est-ce qu'elle peut être antisémite ou négrophobe ou raciste d'une certaine manière? La musique de toutes les époques vient de son contexte culturel. Donc moi, je vous propose quelques extraits. C'est presque un espèce de blind test. On ne va pas appeler ça nazi ou pas, mais l'idée, c'est d'explorer un peu l'antisémitisme en musique. Et on va commencer avec un extrait d'un compositeur très connu à ce sujet. Dans le studio, je crois qu'ils ont déjà reconnu le compositeur.
Wagner.
Ouais, en effet, Richard Wagner. Et puis un extrait des Valkyries. Musicalement excitant, mais bon, on entend tout de suite tout ce côté teutonique de Wagner. Et puis, dans le cas de Wagner, je crois qu'on n'est pas, pour le coup, dans un polémique. Wagner était très, très antisémite. On a les écrits, et notamment un écrit qui s'appelle Das Judentum in der Musik, le judaïsme dans la musique, où il explique tout ce qu'il pense sur les juifs qui font de la musique. C'est un pamphlet de haine assez proche de ce qu'écrit Céline. Il était un antisémite, mais comme Céline, il précise, il ne haïssait pas que des juifs. À l'époque, apparemment, ça se faisait. Il haïssait les juifs, là, les Français, les Italiens et les critiques musicales. Sa haine, mais il avait quand même, et c'est bien connu, Wagner, un penchant, enfin, c'est pas un penchant, il y a une grande partie de son œuvre même qui met en scène un petit peu ce problématique. Même sur Wagner, c'est intéressant. L'été dernier, je vous avais parlé de La Flûte Enchantée, il y a quelques mois, mis en scène par un Australien qui est à l'Opéra Comique de Berlin, Barry Kosky, qui a aussi été invité à mettre en scène Wagner à la Festival de Bayreuth, qui est le festival qui commémore, qui célèbre la vie de Wagner. Et donc, c'est la première fois qu'un metteur en scène juif et homosexuel va mettre en scène un des gros chefs-d'œuvre très antisémites de Wagner, les maîtres chanteurs de Nuremberg. Kosky, il a accepté, il a été le faire. Et puis, justement, il s'en est servi pour tourner cette œuvre en provocation, pas en dérision, mais de montrer tout le côté sombre. Et le public était un petit peu choqué, mais au final, a dit c'est très intéressant de ne pas nier l'antisémitisme, de ne pas essayer de le gommer, mais de le mettre avec le goût d'aujourd'hui, de le confronter à son antisémitisme, et ce n'est pas du tout un apologie qu'il a fait.
Mais alors, comment musicalement c'est fait, ça, justement? Comment est-ce qu'il peut mettre ça en valeur? Moi, j'entends, où est-ce que la musique peut être antisémite ou raciste ou nationaliste, disons grosso, mais comment est-ce que lui peut le mettre en dérision? Comment ça s'entend?
C'est une très bonne question. Ça ne s'entend pas, mais ça se voit. Barry Kosky a fait la mise en scène. Donc, toute la mise en scène de l'opéra, il y avait une lecture où, en effet, on voit les nazis au lieu de voir les braves Allemands qu'on est censé voir. Donc là, le visuel et la mise en scène permettent d'avoir ce décalage. Mais la question est très bonne parce que la musique, est-ce qu'on entend les pensées antisémites ou nationalistes dans le cas de l'Allemagne de cette époque, et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Alors, la question se pose. Je vous propose un autre extrait, de nouveau. Est-ce que vous entendez ça?
Thank you.
C'est connu.
On sèche là.
Oui, c'est très connu, mais est-ce que vous sentez quelque chose de dérangeant, de nationaliste, d'antisémite là?
Non. Plutôt quelque chose de romantique d'ailleurs.
Ah, ouais. Bah, c'est tout le problème, parce que là on est toujours chez Wagner, à la toute fin de Tristan et Isolde, qui est un opéra fabuleux, qui est pour le coup pas très antisémite, il y a même pas, dans le Ring il y a beaucoup de choses, dans le Maître Chanteur de Nuremberg, mais Tristan et Isolde c'est une histoire d'amour, et là à la fin, quand j'écoutais ce morceau pour préparer l'émission, ça me fait venir les larmes. C'est super beau. Même chez Wagner, il y a des trucs qui sont tellement beaux qu'on est déstabilisé. Je vous propose qu'on enchaîne avec encore un extrait. Et la même question, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous entendez là ?
Moi, c'est une musique que j'ai pu entendre dans une dernière version de Roméo et Juliette qui a été faite dans les années 2000.
Oui, par un Australien, Baz Luhrmann.
Tout à fait, ouais.
Film très intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez là, pour le coup ?
Bah, je ne sais plus, moi, là. J'écoute,
c'est un peu garé, ouais,
je laisse venir.
Ouais, il y a de l'emphase.
Oui, il y a de l'emphase.
Il y a de l'emphase, clairement, quoi.
Ouais. Ouais. Et là, du coup, on écoute un extrait de Carmina Burana de Karl Orff, qui est dans le cas. Bah, Wagner était quand même le musicien préféré de Hitler. C'est un, même si Wagner était mort depuis longtemps quand Hitler s'est pris de lui, c'est le cas aussi là de Karl Orff, qui est un compositeur allemand de la même époque, qui écrit donc Carmina Burana, très très connu. C'est une belle musique, mais on sent ce côté vraiment d'emphase et de nationalisme. Et dans le cas de Orff, on est dans un profil très dérangeant, plus trouble. Que Wagner, parce que ses contemporains, Orff, vivait et écrivait à l'époque des nazis. Au début, c'était un artiste de gauche. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Il était ami avec Kurt Weill et Brecht, mais quand les nazis sont montés au pouvoir, il les a lâchés. Non seulement il les a lâchés, mais il a fait de la pédagogie pour la jeunesse hitlérienne. Et quand cette œuvre-là a commencé à prendre du succès, c'est parce que les nazis l'ont adoré. Parce que notamment ces moments-là, c'était tout le Troisième Reich. Et du coup, lui, il a surfé sur cette vague parce que ça l'a permis de se produire, de continuer sa carrière, d'écrire tout un tas de musique. Et il a fait quelque chose d'assez troublant. Enfin, je vous donne mon avis là-dessus parce qu'on n'a pas tous les documents historiques. Mais à la fin de la guerre, les Américains avaient un processus de dénazification. Et du coup, là, Orff a dit, mais j'y croyais pas. En fait, j'étais en secret membre de la résistance, la Rose Blanche et de la Fondée. Bon, il n'y avait pas de preuves de tout ça. Mais contre la guerre, en fait, c'était un opportuniste. Et moi, ça me dérange. Je ne vais pas dire plus, parce que les pamphlets de haine de Wagner, c'est très dérangeant. Mais l'opportuniste qui est nazi pendant la période où ils sont au pouvoir, qu'ensuite dit qu'il était résistant, bah, je crois qu'on a des histoires, des problèmes un peu analogues dans l'histoire de la France.
J'ai une question, Nick. Est-ce qu'on ne retrouve pas des extraits d'emphase comme celui-ci chez d'autres compositeurs qui ne sont absolument pas antisémites ?
Si, justement. Mais là, du coup, je vais devoir changer mon programme pour cette question parce que j'allais justement vous emmener cela. C'est clair. Mais l'emphase pure, moi, ce que j'entends là, c'est quelque chose de nationaliste. C'est quelque chose de on parlait de Napoléon tout à l'heure. C'est une musique aussi qui va bien à l'idée de conquérir le monde et assujettir tout le monde. Les moments d'emphase, de joie, d'extase, c'est différent. Et vers la fin, je vais vous mettre un dernier extrait qui est en emphase. Mais moi, j'entends une différence, mine de rien, avec tout ça. Je mets encore un extrait.
Bon, c'est un film, hein. On est tous d'accord, mais ouais. Qui a écrit cette musique ?
Bon, en fait, ce n'est pas un film à la base, c'est un poème symphonique de Richard Strauss que Stanley Kubrick a bien entendu repris au début de 2001, L'Odyssée dans l'espace. Là, c'est très intéressant. Strauss, lui aussi, a surfé sur la vague du nazisme pour prendre des postes de pouvoir et avancer. Mais tout le long, dans ses carnets, il y avait des choses. Lui, il n'a pas lâché ses amis juifs. Il a même fait écrire le livret d'un de ses opéras par Stefan Zweig, qui était en effet plus qu'un peu persécuté. Il s'est fait virer, en fin de compte, quand la Gestapo a intercepté une lettre à Zweig où il disait, en gros, je joue un rôle pour le régime, mais j'y crois pas. Bon, les Gestapo ont lu la lettre, ils ont trouvé ça pas drôle, ils l'ont viré. Mais Strauss, il a quand même profité un peu du fait d'être en pouvoir. Mais ce qui est doublement intéressant, c'est que cette musique a été reprise par Kubrick, d'origine juive, dans 2001. Et Kubrick, lui-même étant juif, a tenu des propos antisémites. Mais
j'allais te dire, c'est pas parce qu'on est juif que...
Bah oui, et là, il est cité, j'ai une citation de lui où il dit « Je suis d'accord avec Hitler sur presque tout ». C'est Kubrick.
Et puis, certains de ses films sont...
C'est problématique.
C'est terrifiant,
ouais. Ouais. Je vais vous laisser donc avec un dernier extrait. Là, on a de nouveau de l'emphase, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Bêtises pendant oui. que la musique passe.
C'est Capucine qui a gagné, c'est en effet Jean-Jacques Goldman.
Céline Dion.
Non, est-ce que. Enfin là, il y a de l'emphase clairement, il y a de nouveau cette espèce d'apogée.
L'effet des chorales, effectivement. Ouais. Il y a un mouvement.
Peu de cuivre,
Mais là, on est chez Gustav Mahler dans son deuxième symphonie, donc un compositeur juif qui était haï, entre autres, à Vienne, parce qu'il était juif. Là, c'est joué par le Philharmonique de Vienne et dirigé par un grand chef d'orchestre juif. Le symphonie s'appelle La Résurrection. Donc là, on ne sait plus où on en est, parce que La Résurrection, c'est plutôt chrétien. On a un compositeur juif qui l'écrit et on est dans une phase qu'on pourrait facilement confondre avec Wagner. Enfin bref, tout ça pour dire, je pense que pour moi l'analyse finale, c'est compliqué en fait. Tout ça, c'est pas manichéen, c'est pas blanc noir. Il y a des cas comme Wagner où c'est relativement clair, des cas comme Kubrick où c'est quand même clair et dérangeant, et puis tout le reste, waouh. C'est là où c'est intéressant d'avoir un débat ou d'avoir des positions un peu trop tranchées.
Et puis on est en plein dedans avec toutes les affaires qui sortent sur les agressions sexuelles ou les viols.
On est dans le même registre.
Ok, les affaires ne sont pas jugées, mais prenons l'exemple de Kevin Spacey. Doit-on ou pas boycotter l'ensemble de ce qu'il a fait, indépendamment du jugement, hein, admettons même qu'il soit jugé. Moi, j'en sais rien. Je pense qu'on fait un peu comme on ressent, comme on peut, non ?
Oui, et moi je prône l'idée de, en ce qui concerne les livres, de les lire. J'ai lu des livres qui m'ont dérangé profondément, qui m'ont rendu malade, physiquement malade. American Psycho, c'est un bon exemple. J'ai eu du mal à le finir. C'est absolument horrible ce livre. Il ne faudrait pas le lire. Mais c'est intéressant de lire des choses qui dérangent si profondément.
Tout à fait.
Je ne suis pas devenu un tueur en série pour autant. Si vous avez envie de découvrir cette musique-là, il y a, en ce qui concerne Wagner, Valéry Gergiev, un très très grand chef russe, va le diriger le 28 mars à la Philharmonie, la Valkyrie, ce qu'on a entendu en début de chronique. Et Carmina Burana, l'autre gros truc d'emphase, sera joué au Palais des Congrès à partir du 18 janvier. C'est des musiques à écouter, et puis jugez par vous-même, ça vous dérange, ça vous plaît. C'est ça l'art, je pense.
Merci beaucoup, Nick. On retrouvera évidemment toutes ces infos sur notre page Facebook. Et merci, Zoé, pour ce débat que vous avez suscité ce matin. Je me tourne maintenant vers Inès et ses invités qui nous font le plaisir d'être là. Alors, le collectif Baram Art, vous avez un festival qui s'intitule Intersection en mars et ce sera La Parole Errante. Bonjour, Erika. Bonjour, Polo. Et bonjour, Laetitia.
Bonjour.
Je vais te céder le micro, d'ailleurs, Erika.
Merci.
Ouais. Ben justement, je pense qu'on est pour faire le petit lien quand même avec la discussion qui vient d'avoir lieu, et il y a lieu de le faire. Une chose est d'entendre beaucoup de choses, d'en lire, etc. Autre chose est d'en faire la promotion, hein, et d'en profiter, etc., quand il s'agit d'éléments destructeurs. Et là, en l'occurrence, c'est à l'inverse un festival. Maca et Polo, vous en êtes organisateurs, organisatrices, après Umoja qui a eu lieu à Marseille. Et ce festival a des particularités. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Ce festival de hip-hop et de musique populaire, déjà.
Oui, du coup, je m'appelle Waka, hein, c'est mon nom d'artiste. Umoja, ça s'est fait par rapport au 25 novembre. Le 25 novembre, qui est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'était bien avant MeToo d'ailleurs, qui était créé par une femme noire. C'était bien avant les affaires d'Hollywood. En fait, c'était juste pour dire que c'est systémique ce qui se passe. tous les trois jours, une femme meurt sur les coups de son conjoint. Toutes les 40 minutes, une femme va se faire violer. Et du coup, à la fin de cette émission, c'est sûr qu'une femme va se faire violer. Et du coup, le fait est que chacun a une place dans la société et on est dans une société très hiérarchisée. Et nous, on est invisibles dans cette société, on n'a pas notre place. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est justement visibiliser les personnes qui n'ont pas droit à la parole
ou qu'on
refuse à la parole. Du coup, c'est ça que intersection, c'est important parce que c'est par rapport au 8 mars, parce que ça se passe en mars, et par rapport au 21 mars, le 21 mars qui est la journée internationale contre l'élimination de la discrimination raciale, d'où l'intersection entre deux routes. Je te laisse, Polo.
Et moi, je voulais juste placer un petit truc du coup, par rapport au débat sur Wagner, etc. Pour moi aussi, du coup, ce que tu disais, Inès, c'était important par rapport à la promotion. La question, c'est qu'en fait, on est toujours aujourd'hui en France et on peut avoir des opéras littéralement nazis qui se font au Palais des Congrès. Par contre, sur les grands artistes des pays colonisés, sur les grandes artistes femmes, quand, par exemple, quand France Gall est morte, on n'a que parlé des hommes qui avaient fait sa vie, etc. En fait, ces personnes-là sont invisibilisées. Donc, c'est toujours la question du deux poids, deux mesures. Écoutez, Wagner n'est pas le problème. Le problème, c'est que Wagner puisse avoir une place encore aussi importante, alors que d'autres artistes sont complètement invisibilisés. Bah, du coup, pour le coup, notre festival, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on cherche à mettre en valeur les personnes qui sont invisibilisées, qui n'ont pas accès aux scènes musicales et qui, ne peuvent pas percer parce qu'ils sont victimes d'oppression systémique. Donc, les femmes, les personnes racisées, les personnes trans. Et vu que nous, on aime le hip-hop, on s'est majoritairement concentré sur le hip-hop.
Voilà, donc c'est un festival sur le hip-hop. C'est bien cela. Comme...
Alors, donc, on va déjà redire les dates tout de même. Hein.
Le 3 et 4 mars, voilà, 2018.
À la Parole Errante à Montreuil, qu'on a déjà présenté, à Croix-de-Chavaux, rue François Débert, il faut demander la rue piétonne. Clac, on tourne à droite à l'arbre et on est à la maison.
C'est aussi là où il y avait la fête de soutien à FPP, évidemment, on s'en souvient.
Absolument.
On peut parler un peu de la programmation, du coup ?
Oui, du coup, comme on vous l'a dit, il y aura des personnes racisées majoritairement. Pour rappeler, une personne racisée, c'est une personne qui est racialisée, parce qu'on vit dans un système raciste. Et donc, les personnes qui sont racisées, donc qui sont non-blancs, auront plus de difficultés à trouver un logement, ont plus de difficultés. Moi, par exemple, je suis immigrée, j'ai des difficultés quand je vais à la préfecture. On a des difficultés dues à une histoire raciale, à l'esclavage que la France a fait, à la colonisation, à la néocolonisation, oui, aux guerres qui se passent encore en Afrique subsaharienne. Et du coup, voilà, il y aura majoritairement des personnes racisées parce que c'est
d'autant, aussi d'autant qu'il y a l'oppression que tu viens de rappeler, oui, et du coup aussi une création et une résistance artistique, un rebondi artistique particulier à chaque fois, oui, à chaque artiste, comme pour tout un chacun, ça va de soi, mais aussi à partir de ces trajets, évidemment, quelque chose d'autre se forme, hein, et donc c'est aussi la capacité artistique et de résistance qui se met en jeu. On peut peut-être en citer quelques-uns, oui, et quelques-unes.
Tracy Dessa, qui est une artiste anglophone d'origine indienne.
Qui d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, a passé les auditions pour le Printemps de Bourges. Donc on ne sait pas si elle va être acceptée. Mais Tracy, ouais, genre on est derrière toi, on est avec toi. Voilà, on a aussi
Saphir.
On a Saphir Sphère qui a sorti son album, qui a fait la première partie de par exemple Youssoupha, etc. Donc c'est des personnes qui artistiquement valent de l'or. Mais qui ont beaucoup de mal à percer. Il y a aussi, par exemple, Lio qui fait du DJing.
DJ Hétérocide. C'est génial ce
DJ
nom.
DJ Hétérocide.
Carrément.
Il y a aussi Qu'est-ce qu'elle dit la madame qui fait un rap féministe très engagé que moi j'aime beaucoup. Letty qui est juste avec nous.
Qu'on
va entendre et qui va passer.
Est-ce que tu veux te présenter un peu ?
Non. on entendra Laetitia tout à l'heure en direct.
Sincha aussi, qui est là depuis des années dans le milieu toulonnais et qui a fait un rap formidable, qui parle de ses difficultés et qui a une voix magnifique.
Et je crois que le festival Umoja a très bien marché. Alors, vous êtes partie avec rien, hein, je crois, sur Marseille. Est-ce qu'il y a un souvenir ou une surprise, quelque chose qui t'a ému, Polo, Eta, Waka ? Je ne sais pas.
Moi, ce qui m'a beaucoup émue, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas vus depuis 20 ans et qui ont pu se réunir à ce festival. Et aussi d'autres personnes de Toulouse qui ont voulu faire la même chose. Parce qu'il faut savoir que ce genre de festival, il y en a très peu en France. Le premier, c'était à Saint-Étienne, qui s'appelle le Femti Fest. Et maintenant, petit à petit, ça se démocratise, mais ça prend du temps parce que voilà, on vit dans une situation compliquée.
Et ce festival, il existe depuis combien de temps ? Là, c'est votre première édition
Humosa, c'est notre première édition.
Ok. Oui. Et le public a répondu présent
Oui, il y avait beaucoup de personnes.
On s'y attendait justement pas du tout. Moi, justement, le moment fort, parce que j'étais toujours en train de courir partout, j'étais vraiment pas du tout vers la scène. C'est un moment, j'étais dehors, et là, je vois qu'il y avait peut-être 50 personnes devant la salle. Je me dis, bah, il doit y avoir personne à l'intérieur. J'ouvre la porte, c'était blindé, les gens ne pouvaient plus rentrer. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue.
C'est dingue. Magique.
Parce qu'on était trois. Ça nous a pris un an. On a fait des tonnes de soirées de soutien. On n'avait pas d'argent. Enfin, ça a été vraiment une galère. On a fait des débats. Du coup, il y avait Karim Amou, qui est un sociologue, qui est venu. Il y avait aussi du stand-up. D'ailleurs, à ce festival, il y aura aussi du stand-up, aussi des débats, une projection aussi d'un documentaire. Et maintenant, c'est Letty qui va passer.
Oui, on va effectivement... terminer sur le sujet avec Letty qui va nous faire un morceau en direct. On va rappeler les dates de votre festival.
C'est les 3 et 4 mars à La Parole Errante. Donc ça dure 2 jours. Donc il y a 2 scènes, deux soirs de concert et 2 jours avec des ateliers, beatmaking, écriture, débat, tout ce que vous voulez, projection.
On a déjà partagé le lien sur notre page Facebook de l'émission Plein Phare. Et évidemment, on sera là et on vous soutient fortement. Merci à toutes les trois. Et maintenant, on cède le micro à Letty.
Merci à FPP, merci à Waka, merci à Polo, merci à vous. Voilà, moi c'est Letty, je vais faire un petit freestyle, un petit morceau d'Amso, une petite reprise, j'espère que ça va vous plaire, voilà. Je viens du ghetto et je viens d'une cité, donc si je dois te niquer, je le ferai avec mes ros. Je connais des fils d'eux et je traîne avec eux, je les capte sans faire de cachet, ça malgré eux, je crains autant ma vie que ma mort. J'ai perdu des gens et j'en perdrai encore. Je parle beaucoup et quand je l'ouvre, c'est pour dire ce que je pense d'eux à travers et à tort. Je fume pour me rappeler de mes rêves. Stress et nerfs font pousser cheveux blancs. Réfractaire des bagarres, j'en ai connu. De coups assez fermes, j'ai repeint ses cernes. À son haleine, je sais qu'il n'est pas moche. Sans Jack Daniel pour ne voir que ses formes. L'amour de la chair n'a pas que mauvaise odeur. Je le prends 2 jours pour ne voir que ses cornes. Je déteste la violence, j'ai peur du sang qui coule. J'aime pas entendre mes amis dire pardon. Je peux pardonner sans baiser leur gars et attraper la ch'touille. Je suis très méchante quand tu me les casses, pute. Je pourrais t'égorger, te voir te vider de ton sang, finir mes jours en prison et ensuite regretter mes actes. Je parle aux gens parce qu'ils ont peut-être une réponse. Dieu, Satan, enfer et paradis. Les mecs du check, c'est les darons qui prient, attendent des miracles, mais voient leur fils qui tombe. Oui, je t'ai violé, et cela par ta faute. M'a dit ce fils de pute pour qui sentiment j'avais. M'a dit ce fils de pute pour qui j'en ai tant bavé. M'a dit ce fils de pute qu'on a finalement froissé. Il voulait la rose, mais sans les épines. J'ai gardé du terrain comme en Israël. À Gaza, ils bombardent, guettent les collines. Donc jaloux, écriveurs et tuto hostile. Hier, ils tuèrent, aujourd'hui, ça avance au Dastream. Leur mère, je n'écrirai dès que possible. Envers vrai négro, vrai radio, j'aurai beaucoup d'estime. Un jour libre sera la Palestine. Letty. Noir is the new black. Je mets le L avant le E et le point sur le I. Letty. Excusez-moi, voilà, j'étais un peu malade.
Merci, merci,
voilà,
Letty.
Merci.
Merci.
Wow. C'est Noir is the new black.
C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir ça en direct. Hein. Merci beaucoup. Je vois mon invité de la fin d'émission qui va nous rejoindre dans le studio. On va écouter un extrait musical. Alors, c'est un artiste. Alors, excusez-moi, mais ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on vient d'aborder jusqu'à maintenant. Il s'appelle Sandrio. Il nous a demandé si on pouvait annoncer ses dates. Il sera au lieu The Artist le 27 et le 28 janvier à 18h. Donc, c'est dans le 19e. Et la chanson s'intitule Parlez-moi, parlez de moi.
Parlez-moi de moi en toute hypocrisie. Caressez mes poils dans le sens de ma vie. Choisissez les mots, flattez, flattez-moi. J'aime quand vous dites que je suis le plus beau, le seul homme de la terre sans aucun défaut. Je vous en supplie, adorez-moi. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et s'il n'en reste qu'un, ce sera moi. Donc mon corps et venez constater que ma chair et mon orgueil de vous est parfumé. Ne m'oubliez pas, lovez-moi. Passez la pommade sur tous mes écarts. Subissez mes folies, mes rêves, mes retards. Je suis mal poli, je ne vous aime pas. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et s'il n'en reste qu'un, ce sera moi. Je n'ai qu'un seul but, gagner beaucoup d'argent. Je me fous de vous et de vos compliments. Vous êtes ridicule avec vos sentiments. J'aime quand la foule crie d'une seule voix. Mon nom vous défoule, et bien, adulez-moi. Tout est clair entre nous, je n'aime plus que moi.
Voilà, c'était donc Sandrio qui sera en concert à The Artist les 27 et 28 janvier dans le 19e. Capucine, je te cède la parole. Nous sommes toujours dans l'émission Plein Phare, diffusée les 1er et 3e mardis de chaque mois en direct. Tu es allée donc, nous, à Bobinomé à Bobigny, voir le spectacle. Toujours fun, c'est l'inverse. Family Flows, excuse-moi.
Tout à fait, Camille. Si ce n'est que je ne suis même pas encore allée à Bobino, puisque le spectacle commence ce soir, le spectacle de la Family Flows, qui s'appelle Hôtel Paradiso. Alors, pourquoi est-ce que je suis venue ? J'avais envie de vous parler de ce spectacle, parce que c'est un spectacle que j'ai vu en 2013 à Avignon. Et je peux vous dire qu'il m'a suffisamment marqué pour que je puisse vous en parler aujourd'hui. Family Flows, j'y avais été parce que tout le monde me disait « Faut aller voir ce truc !» Et ça se passe comme ça, hein, beaucoup à Avignon. Hein. Donc je suis allée voir ce truc qui se trouve à gagner le prix de la critique du Off à Avignon cette année-là, qui je crois rejouer les années suivantes. Et effectivement, si les gens ont dit ce truc, c'est parce que c'est totalement inclassable. Je pense que les gens cherchaient encore les mots. C'est un collectif berlinois qui existe depuis plus de 20 ans et qui met au point une méthode de création et qui croise énormément d'art qu'on connaît déjà, mais qui arrive à une sorte d'alchimie de tous ces arts que seuls savent faire. En l'occurrence, ils utilisent le masque, l'acrobatie, le mime, la danse, le clown. Et la particularité de leur spectacle, c'est que c'est totalement muet. C'est totalement muet. Alors, on dit de la Family Flows que leur esthétique est née de l'union de la comédia dell'arte et de l'expressionnisme allemand. Moi, personnellement, j'y vois plutôt des histoires à la Jeunet, avec cette espèce de couleur particulière qu'on trouve dans les films de Jeunet, cette forme de surréalisme auquel on croit, auquel on adhère, parce que c'est Jeunet. Mais j'y vois aussi des chiens. J'y vois aussi un rapport au bruitage, au rythme, comme ça, ciselé, comme on pouvait le voir chez les Deschiens. Les masques sont très, très importants dans la Family Flows. Ce sont des masques à la fois qui sont réalistes et en même temps un petit peu trop grands quand même pour les corps, qui donnent un espèce de code presque de dessin animé. Et on embarque comme ça avec eux dans un... Alors, Hôtel Paradiso, en l'occurrence, ça se passe dans une sorte de pension bavaroise, familiale. On imagine très bien les petits rideaux à fleurs, à froufrou, une pension vieillotte tenue par une vieille dame qui est plus proche de la dictature que de la démocratie, hein, qui a deux fils qui aimeraient quand même bien prendre la suite, hein, si c'était possible. L'un d'eux est très amoureux. Ça va être une histoire qui va rester comme ça, comme un fil... dans tout le spectacle. Et ma foi, tout va bien. Il y a un petit enjeu quand même, c'est d'obtenir la 4e étoile. Et ça va bien. La 4e étoile, c'est comme les guides de France. Non, non, pas du tout. Comme les guides Michelin pour les restaurants, vous savez. Une étoile d'hôtel, Camille. Une étoile d'hôtel.
J'ai pas l'habitude d'aller dans les 4 étoiles.
En plus de ça, il semblerait que cet hôtel soit construit autour d'une sorte de source minérale qui ait des vertus particulières. Bref, tout va bien jusqu'à ce que tout aille mal. on embarque dans une sorte de thriller théâtral, masqué, on dirait presque de la marionnette en fait, sauf que ce sont évidemment des personnes qui l'incarnent. On a une série de personnages géniaux, loufoques, on a une bonne qui est kleptomane, un cuisinier qui est archigore, un chien qu'on verra jamais qui pourtant prend une place folle dans ce spectacle, un groom maladroit, des clients complètement barjots évidemment. Ils jouent avec rien, avec un rouleau de scotch, ça est capable de leur faire quand même 5 ou 10 minutes, une tasse de thé, un aspirateur. C'est extrêmement drôle, c'est de l'humour noir. Hein. Derrière ce côté désuet, rideau à fleurs, masqué, c'est tout public, mais enfin il y en a quand même quelques-unes qui sont bien trash. Zoé, tu voulais dire quelque chose?
Oui, alors du coup, excuse-moi si je me suis perdue un petit peu dans ta chronique, mais du coup, c'est muet ou c'est pas muet?
C'est muet.
D'accord. Et donc, comment, enfin...
Et c'est ça qui est hyper balèze, ouais, avec la Family Flow, c'est que les masques ne sont absolument pas expressifs. Évidemment, ce sont des masques. Et les corps racontent à la place des visages ce qui se joue pour chacun des personnages. Donc, c'est muet. Totalement. D'accord. Du début à la fin. Et pourtant, il se passe pas mal de choses.
Et on arrive bien à suivre voilà, toutes les intrigues, totalement, tout ça. Hein. Y a pas de...
Ce sont des raconteurs d'histoires, la Family Flows. Ils nous embarquent avec eux dans une histoire comme ça qu'on pourrait penser être une histoire pour enfants et puis qu'il y a quand même plusieurs niveaux de lecture.
Bah dis donc, moi j'ai bien envie d'aller le voir ce spectacle. Ouais, donc il se joue à Bobino.
Il se joue à Bobino, Camille, et non pas à Bobigny. Il se joue à partir de ce soir jusqu'au 4 février, du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 16h30. Les places coûtent de 22 à 51 euros. Vous pouvez évidemment réserver sur le site de Bobino. Je suppose que vous trouverez également des places sur les sites de réservation. C'est à voir la Family Flows. Ils ne sont pas souvent à Paris. Vraiment, hein, c'est un cadeau de les avoir là pendant 15 jours. Allez-y.
Eh bien, on y va. Et on ne le savait pas, mais on avait un point commun, toi et moi, dans notre chronique, puisque moi, le spectacle dont je vais vous parler maintenant, je l'ai aussi vu à Avignon cet été. Et je m'en souviens suffisamment depuis cet été pour dire à quel point j'avais très envie d'inviter, de recevoir le metteur en scène aujourd'hui, Stéphane Boucherie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, effectivement, c'est aussi une chance que ce spectacle se joue sur Paris, parce que vous n'êtes pas une compagnie parisienne.
Non, pas du tout.
La compagnie L'Embellie, vous êtes au Théâtre du Noix du 17 au 28 janvier, donc ça commence demain.
Oui.
Et donc le spectacle s'intitule « Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie ». Tout à fait. Je voudrais que Capucine nous lise, si tu veux bien, nous être la voix de... Le pitch du spectacle que je trouve très bien écrit, du coup j'avais très envie qu'on le lise avant de commencer cet entretien.
Je suis la liseuse attitrée de plein phare. Ça commence à qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
C'est ça.
Alors je commence. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pourquoi? La petite fille ne déclare-t-elle jamais qu'elle veut devenir cosmonaute, pompière ou chauffeuse d'autobus? Pourquoi le petit garçon ne veut-il jamais devenir nounou, coiffeur? Rien ne s'y oppose pourtant. Alors? Chacun sa place, pardi, place réservée. Les places sont chères, ancestrales surtout. On change de place? Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie. Aborde la question de l'occupation de l'espace en fonction des genres par le prisme de l'espace intersidéral, ici métaphorique. Une enfant, Axel, avec deux L, se rêve cosmonaute. Dans cette perspective, quoi de plus logique que de rejoindre le club Ariane où l'on apprend à fabriquer des fusées? Comment croyez-vous qu'a commencé Von Braun, l'inventeur des V2? Mais dès cette première étape, Axel est confronté à la difficulté de trouver sa place dans un club aussi masculin que n'importe quel club de foot. C'est bien deux ailes, et pas moins, qu'il va lui falloir déployer si elle veut parvenir à prouver qu'une fille aussi peut construire et faire décoller un engin volant. À l'image du bras de fer entre Russes et Américains dans la course à l'espace, la rivalité entre Axel et les garçons du club Ariane a bien des allures de guerre froide.
Voilà, moi c'est le...
Merci.
Merci Capucine. C'est le premier spectacle que j'ai vu au Festival d'Avignon cet été. Et quand on en voit un aussi bon d'emblée au Festival d'Avignon, on se dit que ça c'est quand même un bon présage. C'est un spectacle vraiment puissant et qui le doit aussi à ces comédiens que je vais citer tout de suite. Henri Bott, Marie Philippi et Lexité qui fait du beatbox, la musique en direct dans ce spectacle.
Oui, tout à fait.
Alors, donc Stéphane Boucherie, vous avez adapté un roman de Sarah Carré?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, c'est pas du tout un roman. En fait, L'Embellie Compagnie, donc effectivement, on n'est pas de Paris, on n'est pas très loin, on est Lillois. Et c'est une compagnie dont le projet artistique est porté par une auteure, Sarah Carré, et puis moi-même, donc Stéphane Boucherie. Et on a pour ambition de s'adresser à tous dès la jeunesse. Et pour ce spectacle-là, ça a été une écriture au plateau. Mmh, donc, ce n'est pas du tout un roman. Sarah fait partie du processus de création. Et on a eu envie de s'emparer de cette question de l'égalité filles-garçons, et non pas en interrogeant l'identité, mais en allant questionner la place à laquelle on peut se rêver, ou la place qu'on s'interdit, ou qu'on pourrait s'interdire selon qu'on est une fille ou un garçon. Et ça a été 2 ans de travail, dont j'ai envie de dire 1 an de dramaturgie, et, ou même 2 ans et demi, et puis 1 an et demi de travail au plateau, donc avec l'équipe de création, Henri, Marie et Léa au beatbox. Et pour ce spectacle, même la fable, d'une certaine manière, c'est même inscrite dans le processus de répétition au plateau. Et c'est un spectacle qui va mêler à la fois une histoire, mais du réel et du documentaire.
Donc là, vous êtes au Théâtre Dunois, qui est un théâtre spécialisé dans le jeune public, de Place d'Italie. J'ai vu sur le programme que c'était à partir de 8 ans. Moi, il m'a semblé que ce spectacle était abordable plus tôt, justement, parce qu'il abordait des questions juste sur la place, comment les hommes perçoivent les filles. Enfin, j'avais l'impression qu'il était adapté à plus jeune que 8 ans.
Alors, la question de l'âge d'entrée, c'est toujours une question assez, assez épineuse pour une... pour une compagnie, puisque d'une certaine manière, il faut répondre à un souhait, quelquefois exprimé ou quelquefois souterrain, d'un responsable de théâtre qui se dit, voilà, moi, si je propose le spectacle, à partir de quel âge je le propose ? Donc, on a préconisé 8 ans. Voilà, on s'est dit qu'à partir du CE1, CE1, CE2, ça pouvait être bien. À l'évidence, on s'est rendu compte, notamment lors de séances tout public, où l'enfant arrive accompagné des parents, où un enfant plus jeune, effectivement, trouve un intérêt. Et ce qui nous a vraiment plu aussi sur Avignon, par exemple, où le public, le bouche à oreille se fait chez le festivalier, où on a eu beaucoup d'adultes qui sont venus et non accompagnés d'enfants, quoi. Donc effectivement, ça nous semble évidemment, mais c'est bien de le souligner, ça nous semble un peu réducteur. De dire à partir d'eux, c'est juste effectivement une nécessité, notamment pour la présentation en temps scolaire.
Mais comme vous le disiez, effectivement, le public Avignon est, on le sait, plus adulte, et c'est un spectacle qui est tout aussi pour adultes, en fait, de par sa richesse. C'est un spectacle très visuel. Alors, je vais essayer de décrire la scène dans mon souvenir. Il y a un pan de mur qui est recouvert de panneaux de circulation,
oui,
qui sont retournés au fur et à mesure du spectacle de façon aléatoire, et où vont être projetées aussi des images, notamment des images d'archives sur les cosmonautes femmes.
Oui.
Donc on retrace un peu comme ça l'histoire que personnellement je ne connaissais pas de la place de la femme dans la conquête de l'espace. Et ces choses-là, donc il y a quelque chose de très visuel, les projections, mais utilisées de façon très 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 fine. Je trouve que c'est pas ce qu'on. Enfin, moi, j'ai toujours peur un peu de voir des projections au théâtre, et là, je trouve que c'est une belle invention.
Je vous remercie. Ouais, effectivement, c'est la question de l'espace est primordiale dans notre travail, et on y a pas mal réfléchi, effectivement. Et puis à un moment donné, on s'est dit, cette histoire d'égalité filles-garçons, c'est vraiment un chantier. C'est un chantier à partager ensemble, femmes et hommes. Et on avait envie aussi d'un spectacle inscrit résolument dans notre époque, dans le réel, et non pas une fable, dans le merveilleux.
Avec des grenouilles et des petits lapins.
Voilà, voilà. Et donc à la fois le beatbox dans sa dimension effectivement urbaine et cet espace nous permettait d'inscrire cette question de l'égalité filles-garçons en communication vraiment, vraiment d'aujourd'hui. Et les panneaux de signalisation nous permettent effectivement de pouvoir produire un mapping vidéo et d'avoir un espace qui est comme une injonction, hein, une répartition de l'espace d'une certaine manière. Et les enfants le lisent très bien, avec des sens interdits, des chantiers interdits, et des obligations de tournée, etc. Donc effectivement comme des routes prédestinées. Et cet espace un peu à la fois effectivement se modifie à vue, puisqu'il est modifié par les protagonistes, puisqu'on est sur un va-et-vient permanent entre la fiction, cette histoire, voilà, vous avez très bien lu le pitch, donc l'histoire d'une jeune fille, Axel, qui veut devenir, qui se rêve cosmonaute, mais qui est interprétée par des artistes d'aujourd'hui, à savoir un comédien, une comédienne et une beatboxeuse, qui vont interroger aussi leur place d'hommes et de femmes d'aujourd'hui dans cette question de... voilà, Henri dit par exemple, voilà, moi quand j'ai dit à ma grand-mère que je voulais faire du spectacle, elle m'a dit « Oh non, pas danseur quand même ». Mmh. Voilà, non, mais pas danseur. Et Léa, beatboxeuse, on dit voilà, à chaque fois que je sors de scène, il y a toujours quelqu'un pour me dire je savais pas que ça existait, les filles beatboxeuses. Mmh. Là, elle balance du gros son bien lourd. Mmh. Et j'en reviens effectivement sur l'espace. Donc, l'espace est manipulé par les protagonistes et d'une certaine manière ouvre un espace mental et dans lequel la petite Axel va pouvoir se projeter un peu à la fois, quoi.
Oui, c'est vrai, vous venez de dire quelque chose de très intéressant sur ce spectacle, c'est qu'on n'a pas affaire à des personnages, on a affaire à des comédiens qui interprètent les personnages.
Oui, voilà. Voilà.
Et c'est aussi quelque chose qui est beau à voir et à transmettre au public, au jeune public. Ce sont des comédiens, en fait, et qui exercent leur métier aussi.
Voilà, hein, qui exercent leur métier, qui sont là en tant que femmes et hommes. Qui ont des rapports entre eux, même des rapports antagonistes quelquefois, où une scène peut être interrompue, et les filles qui disent « Mais non, ça, c'est pas possible.
Mmh, » Changement franchement, de costume à vue.
Franchement, c'est trop lourd. Mmh. Ce que tu es en train de raconter là, c'est pas possible. Et le spectacle a été nourri d'interviews aussi, d'interviews d'enfants. D'ailleurs, le spectacle s'inaugure sur des voix d'enfants.
Et bien, on va écouter ça, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Stéphane Boucherie.
Bah, je trouve qu'elle est plus intelligente parce qu'elle, au moins, elle fait tout. Elle fait toute la maison. Et même des fois, elle nous dit à nous qu'elle est la bonniche.
Si on n'avait pas fait tout le temps la maison, on n'aurait jamais d'habits. On n'aurait jamais de quoi manger.
Pompiers.
Ils peuvent le faire, mais les filles, par exemple, sur le calendrier des pompiers, il n'y a aucune fille.
Quand j'ai annoncé à ma grand-mère que je voulais être comédien, elle a fait... Oh non!
Voilà, oh non, pas danseur quand même, c'est ce que vous disiez, Stéphane Boucherie, le comédien Henri Bott, vraiment remarquable, tout comme Marie Philippi, et l'excité, et donc fait du beatbox, de la musique sur, en direct.
En direct, oui, tout à fait.
C'est vraiment aussi une des forces de ce spectacle, de cette proximité-là, de visualiser la musique de cette façon.
Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, Léa, bon, voilà, c'est une pointure en beatbox. Elle est
championne de beatbox.
Ouais, ouais, double championne de France de beatbox.
C'est pareil. Je savais pas que ça existait des filles double championne de beatbox.
Carrément, carrément. Et Léa milite fortement dans ce milieu hip-hop qui est quand même assez masculin. Elle milite effectivement pour, et non seulement elle milite, mais elle partage. Mm. Elle partage beaucoup. Elle a une chaîne YouTube, apprendre le beatbox en s'amusant, et elle est vraiment dans cette volonté-là de faire que le beatbox effectivement puisse être partagé par les femmes. Donc elle a été deux fois championne de France, et elle a fait des championnats du monde, elle est arrivée assez loin à Berlin en quart de finale, etc. Mais effectivement, elle propose à la fois, moi ce que j'aime dans ce qui est proposé là, c'est qu'elle va travailler avec sa loop station, donc elle va mixer le son, et il va y avoir des sons à la fois très organiques et très sensuels parce que produits par la voix, et aussi évidemment un environnement sonore hip-hop urbain avec une rythmique, elle apporte une rythmique forte au spectacle, et puis elle bruite aussi en permanence et en direct le spectacle, ce qui va permettre par exemple aux comédiens d'ouvrir une porte imaginaire et ça va se bruiter, ou de voilà permettre une scène où on se retrouve dans une fusée et le frère et la sœur jouent à, comme quand on était enfant, où on joue à devenir un autre, et l'environnement sonore fait que on entre avec eux dans cet imaginaire, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un spectacle, comme vous le disiez, très urbain, très. On croit à tout, en fait, et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres choses que ce qui est sur le plateau. Tu voulais dire quelque chose,
J'aimerais simplement poser une question sur la façon dont le spectacle est reçu, parce que c'est un spectacle militant.
Tout à fait.
Et des adultes viennent voir le spectacle avec leurs enfants.
Oui.
Et je peux imaginer que ça touche à la fois les adultes et à la fois les enfants. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'il y a peut-être des débats, des choses comme ça qui sont organisées derrière?
Beaucoup.
Comment ça bouge?
Beaucoup. Alors, on a nous, déjà, mais enfin, on est loin d'être les seuls, on propose systématiquement un bord de plateau à l'issue du spectacle, qui nous rendent résolument optimistes, quand même. Puisque cette question d'égalité filles-garçons, pour des enfants de 8 ans, généralement, ça ne pose pas de question. Enfin, tout au moins, quand on l'aborde comme ça frontalement. Après ça, quand on va creuser, on se rend compte qu'effectivement, il y a des interdits, voilà, il y a des stéréotypes qui font qu'à un moment donné, l'un ou l'autre, on est dans des cases où on s'interdit. Mais... ça rend relativement optimiste. Et moi, je me souviens aussi d'un bord de plateau partagé. On était dans le Nord, proche d'une campagne, à Saint-Amand-les-Eaux, et une spectatrice, une dame peut-être 50-55 ans, prend la parole et commence cette chose-là en disant « Je vous remercie pour le spectacle, les blessures de l'enfance ne se referment jamais. » Bon, ça... Elle dit « Voilà, moi, quand je suis issu d'une famille dans laquelle... On n'a pas arrêté de me dire c'est pas possible. Et d'une certaine manière, je me suis battue contre. Et maintenant, je suis agricultrice et chef d'entreprise. Et voilà. Et elle voulait témoigner. Et après ça, elle a parlé aux enfants. Effectivement, elle dit, moi, j'avais un rêve. J'ai dit, ouais, mon rêve était là. Et pour reprendre des paroles de Claudie Aigneret, première femme cosmonaute française, elle dit, voilà, moi aussi, je suis passée du « c'est pas pour moi » à « pourquoi pas moi ». Voilà. Donc effectivement, on se rend compte que ça touche profondément les spectatrices, les spectateurs, qu'après ça, les enseignants vont s'en emparer, évidemment, comme un objet pédagogique, enfin c'est surtout un objet artistique, on l'espère. Et c'est aussi quand on a des séances familiales, on se rend compte qu'effectivement, ça discute entre les générations et... C'est un peu pour ça, résolument même pour ça qu'on fait du théâtre. Donc avec l'embellie, on essaie vraiment d'aborder avec les enfants des questions politiques. Notre dernier spectacle, Babil, pour tous à partir de 4 ans, va aborder les questions des rapports de force qui traversent la parole, qui a la parole, qui l'a pas, et celui qui a la parole a le pouvoir. Donc on est vraiment sur des questions d'un moment donné, c'est-à-dire comment on fait groupe, comment on fait société. Et aborder des questions complexes ne veut pas dire faire des spectacles compliqués. Notre travail, vraiment, c'est d'essayer de donner des spectacles à plusieurs niveaux de lecture, mais de ne pas s'interdire, pas du tout, des questions complexes. Et la seule chose qu'on s'interdira, c'est du nihilisme, parce qu'on s'adresse à des enfants et que d'une certaine manière, on a envie de leur dire, à un moment donné, emparez-vous de votre vie. Voilà, leur dire que la vie est complètement merdique et foutue, c'est pas notre credo. Mais dire que la vie est compliquée et qu'on ne pourra pas forcément dire c'est tout blanc, c'est tout noir, ou qu'on n'a pas forcément de réponse, nous, adultes, et qu'on peut se poser des questions ensemble, voilà, c'est un peu ça notre credo, quoi.
Eh bien, en tout cas, on est très contents de vous avoir donné la parole ce matin, Stéphane Boucherie.
Ouais, je suis bavard.
Non, c'est pas ça, c'est bientôt la fin de l'émission, mais vraiment de dire, vraiment encourager les parents à aller voir ce spectacle au Théâtre du Noix, et n'hésitez, ne soyez pas réfractaires sur l'âge, c'est tout autant pour adolescents que pour adultes, et ça aborde, au-delà de l'histoire de cette petite fille qui veut devenir cosmonaute, il y a vraiment plusieurs thèmes qui sont abordés, la relation entre un frère et une sœur, la violence entre les enfants... c'est un spectacle très très dynamique, que j'ai adoré moi à Avignon, vraiment.
Merci.
Je vous conseille vraiment d'aller au Théâtre du Noix, c'est dans le 13e et ça se joue du 17 au 28 janvier. Les réservations se font au 01 45 84 72 00 et c'est les mercredis, les samedis et les dimanches.
Oui, tout à fait. Donc il y a 6 représentations tout public, les mercredis à 15h, les samedis à 18h et les dimanches à 16h. Et donc on en profite pour remercier le Théâtre du Noix qui co-réalise cette série de représentations avec nous.
Merci beaucoup Stéphane Boucherie, et on rappelle le prénom des comédiens, Henri Botte, Marie Philippi et Lexité pour le beatbox. On lance le générique et on vous dit au revoir. Merci beaucoup Stéphane Boucherie.
Au revoir.
Plein phare.
Les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, de 11h à midi, en direct sur FPP.
Merci beaucoup Zoé, merci Nick, merci Inès.
Merci Camille.
Merci à tous nos invités. Et je n'ai plus que quelques secondes pour faire un énorme béco d'anniversaire à notre cher Nick qui nous a rejoint dans l'émission depuis peu.
Joyeux anniversaire.
Merci à vous, on quitte le studio et on retrouve Manon pour l'agenda.
C'est plutôt une mission, un engagement.
Il faut forcer les gens à venir dans la rue, se rendre compte justement par eux-mêmes et qu'ils regardent justement tous les médias indépendants.
Parce que vous avez vous aussi envie.